Donc voilà, deuxième partie. On a eu deux exposés très différents et pourtant, je pense, complémentaires, même si on n'a pas eu tout ce que pouvait nous offrir Nicolas. Mais voilà, je vous laisse la parole maintenant et voir un peu ce que ça vous a suscité. Oui. Alors, normalement, on termine à 10h. Maintenant, je dirais que c'est vrai qu'on a pris un peu de retard. Donc, si vous êtes d'accord, on peut dire qu'on termine à 10h15. Ce qui nous donnera un peu plus de temps. Et à 10h15, on termine. C'est bon pour tout le monde? Ok, parfait. Alors voilà, qui lance les premières questions par rapport à ce qu'on a entendu de Nicolas et de Gaëtan? Alors, la première est toujours difficile. Je peux la lancer à moins que quelqu'un d'autre me... Voilà, Nicole, je crois que...
Non, c'est parce qu'en parlant de sorcières et puis de la façon dont les débuts de l'époque moderne dont vous avez parlé étaient vraiment aussi issus du fait de réduire les femmes au silence, je me demandais comment après ça se poursuivait dans votre réflexion, parce que je trouve que c'est un moment qui m'a beaucoup touchée, parce que c'est quelque chose que je ressens souvent, et donc de le voir partagé, c'était très agréable. Mais alors j'avais envie de dire, une fois qu'on sait ça, qu'est-ce qu'on en fait après? Parce qu'après, je voyais pas de distinction entre les hommes et les femmes, et je me demandais qu'est-ce que vous en faites.
Bon, alors...
Mais d'abord, merci aussi pour cette distinction, d'abord merci, et puis après, qu'est-ce qu'on peut en faire?
Bon, alors, je peux dire plein de choses là-dessus, donc je vais essayer d'organiser un peu. La première chose, c'est que ce que je voulais dire, c'était vrai, c'est que c'est vrai qu'au XVIe, XVIIe siècle, bon, il y a des femmes qui ont été complices aussi de l'affaire, hein, je ne suis pas dit au contraire, mais les sorciers, c'était les guérisseurs. Alors, ils avaient vraiment une conception magique des choses, hein, vraiment, on va dire aujourd'hui, ça n'a plus de sens, mais ils acceptaient. Ces femmes qui avaient des pouvoirs dits magiques, etc., c'était en fait des pôles d'unification du village. Les gens venaient les consulter, comme aujourd'hui on va consulter son psy ou son médecin, et puis elles réunissaient le tissu. Alors, comme il y avait des problèmes de magie, la magie donc avait deux adversaires, c'était les églises, et puis il y avait les scientifiques qui le faisaient. Tout ça, effectivement, a donné une convergence, et c'est vrai que dans les premiers temps de la naissance des sciences, il y avait des discours du style, je me rappelle, la raideur de l'homme pour comprendre la nature. Alors, écoutez, on peut interpréter ça dans des sens où la psychanalyse est cachée, d'accord, mais ou ce genre de choses, du style, l'homme, le scientifique, il faut que ce soit un homme parce que l'homme va arracher à la femme le pouvoir qu'elle a sur la nature.
C'est
un côté viol de la nature aussi, donc il y a des aspects comme ça qui sont profonds. Cela dit, moi je suis, par rapport à la question féministe, moi je me méfie un petit peu parce qu'il y a des aspects qui sont dans le domaine du droit, du social, du juridique, etc. Et quand on fait des distinctions entre hommes et femmes, c'est autant justement des représentations sociales, etc., ça me met un peu mal à l'aise. Alors, moi je considère que la notion de féminité et de masculinité sont d'abord des abstractions, et parce qu'il y a des hommes qui ont quelquefois une psychologie féminine, même quelquefois des comportements féminins, et des femmes qui ont des comportements masculins, etc. Donc on ne peut pas trancher ce qui est biologique avec ce qui est du domaine des représentations. Donc c'est plus flou, et je me méfie un petit peu des discours un peu là-dessus. Alors, cela dit, moi je me dis que. Il y a eu des femmes qui dans l'histoire, ont aidé les sciences scientifiques au XVIIIe siècle, les salons organisés par des femmes, etc. Mais c'est vrai qu'elles sont quand même bien absentes du monde scientifique, technique, et même si aujourd'hui il y a quand même beaucoup de progrès depuis une vingtaine, trentaine d'années. Il y a encore des représentations qui sont là. Or, je pense que si véritablement, pour développer une science du vivant, mais du vivant qui ne soit pas un vivant disséqué, un vivant mort, c'est pas un vivant étalé comme on étale les poissons jeudi sur une étale de poissonnier, mais qu'on soit le vivant justement in live, etc. Il faut aussi intérer dans cette dimension d'analyse quelque chose qui relève un peu de l'expérience intérieure. des expériences sensibles et tout un tas de dimensions qui sont ont été écartées, même si ça s'est présenté. Voilà, c'est un petit peu ce que je dis, et moi j'attends qu'il y ait plus de femmes dans le monde scientifique. Pas tout le monde dans le monde scientifique, à part tout. Non, philosophie, en philosophie, ça commence à se faire. C'est vrai que comme Anna Arendt, c'est comme ça, il y a des choses comme ça, c'est pas trop connu, mais c'est vrai que on a beaucoup à re... Moi je travaille dans le milieu catho, alors dans l'église, c'est pas pour moi. Hein. Vraiment pas, parce que là c'est une existence. Ouais, pas uniquement dans les milieux universitaires aussi, c'est un peu comme ça dans les milieux médicaux, ça change heureusement. Mais c'est pas encore cela. Non. Par contre, le milieu éducatif, lui, il a basculé trop. Il y a 15 ans, il y a sur 11 professeurs, il y a 10 femmes. J'aurais aimé un peu plus d'hommes, je serais bien assez plus. Ben voilà, je change cette idée.
Oui. Moi, je voudrais demander, dans la liberté d'autonomie, qui est-ce qui détient le pouvoir et qui édicte la norme et qui, je dirais, valide la contrainte et dit ça, c'est une contrainte et tout le monde, d'une manière ou d'une autre, doit la respecter.
Alors, vous parlez, par exemple, dans une organisation ou une entreprise ?
Par exemple, ou même plus loin, je veux dire, ça pose aussi la question de l'État, ça pose plein de questions où se trouve le pouvoir.
Alors, prenons la question de l'État. C'est une analogie intéressante. Là, j'ai donné un cours sur Kant et on a analysé la question de la Révolution française, ce qui s'est passé. Ce qui est intéressant, c'est que du point de vue français, la Révolution est un aboutissement, mais du côté allemand, c'est un point de départ. Alors, ce qui est intéressant, c'est que les Allemands ont réfléchi à la Révolution française comme un acte de libération, de liberté, dans la mesure où c'était un peuple qui était capable de se donner ses propres contraintes, ses propres constitutions, sa propre législation. Ce n'est pas quelque chose qui est imposé par un monarque absolu, ou par un dictateur, ou même par une oligarchie, ou par un tout ça. Donc, dans la mesure où le peuple était capable de se donner sa propre constitution, de créer ses propres règles, il fait acte justement de liberté, de liberté politique. Alors après, on transfère la génération suivante. Alors est-ce que la génération suivante se considère comme libre d'avoir reçu une constitution qui n'a pas été faite par eux, ça pose un problème. C'est une question de. Alors c'est là que la créativité intervient. Comment recréer, effectivement, comment se réapproprier ou intérioriser justement cette règle, cette législation qu'on a fait. Bon, alors après, le problème, c'est que les utopistes et les bâtisseurs d'une génération vont devenir les conservateurs de la génération suivante. Voilà. C'est sans cesse un travail. C'est pour ça que cette liberté de Bonny doit repasser par une indépendance, une recréativité, un retravail pour revenir à une autonomie. Donc c'est une boucle qui fonctionne en permanence. Je ne sais pas si j'ai un peu répondu à la question. Après, à titre personnel, moi si je donne l'exemple de l'artiste, c'est un peu pour ça. C'est-à-dire que l'artiste doit apprendre à se connaître, à connaître toutes ses contraintes physiques, biologiques, historiques, sociales, etc., pour un musicien. Mais s'il sait de travailler, il va voir que c'est de spontanéité, de liberté, de créativité qu'il peut avoir, va se faire un peu. Donc il faut qu'il retravaille, surtout une certaine indépendance pour pouvoir reconstruire après ce que je dis. Je pense qu'il y a une boucle qui s'opère, mais dans le cadre d'un écosystème, la vision d'un écosystème et puis une vision processive que je ne vais pas développer ici, la liberté d'autonomie et recouvre l'indépendance. Je ne sais pas si je vous donne quelques pistes de réflexion, mais. Non, parce que
je vois peut-être que. C'est presque au niveau social que je me pose la question de savoir où se situe le pouvoir dans le cadre de cette liberté d'autonomie. On parlait de la circularité, mais.
Oui, vas-y.
C'est Gaëtan, on n'a pas peut-être des éléments de réponse, hein, ce qu'il a dit tout à l'heure, hein, quand il parlait par exemple des étourneaux, et puis de ces groupes qui se forment, de l'émergence. On me demande s'il n'y a pas des éléments de réponse par rapport à ce qu'il disait.
Oui, certainement, on peut creuser aussi, dans cette voie-là, enfin, en tout cas, au niveau du certaines limites sur les contraintes, effectivement, qu'on peut à un moment donné dépasser et agrandir en fait son indépendance dans le système. Moi, j'aime bien l'analogie du musicien, en fait, qui est obligé de bosser pour faire en sorte que son instrument fasse partie de lui-même. Donc, quelque part, je suis un système, j'ai mes frontières. Je prends un instrument, je ne le connais pas du tout, c'est plein de contraintes, je dois vraiment travailler pour faire en sorte que les deux systèmes deviennent un seul. Là, on atteint alors une indépendance. Maintenant, cette question, moi je la voyais plus aussi, cette question du pouvoir sur ce qu'on disait tout à l'heure, c'est qu'on a culturellement une notion du pouvoir qui est celle du commander et contrôler. Et c'est un grand privilège. Et en face, il y a des gens qui attendent, des commandeurs et des contrôleurs. Et ils attendent des instructions. Et tant qu'on sera dans ce domaine-là, il y aura très peu de créativité. Parce que c'est difficile de faire émerger quelque chose dans la tête d'une seule personne qui doit commander et qui fait jouer. Donc là aussi, on est en plein systémique où vous devez. Où le leader doit changer leur façon de se voir. Mais aussi les gens qui travaillent avec lui, j'ai pas envie de les appeler les subalternes, voilà, c'est des gens qui font partie de l'équipe, qui doivent se voir comme un facilitateur et pas comme monsieur réponse à tout.
Comment est-ce qu'on se cache dans son propre pouvoir dans un orchestre?
Comment on propre pouvoir
dans un orchestre?
Ah,
Il y avait une analogie.
Si,
en musique cigane, ça se fait, ça.
Ah oui, alors il y a aussi tout l'univers de l'improvisation aussi.
Musique, on prend après d'avoir les danseurs qui vont taper des rythmes différents sur leurs bottes, et ça va indiquer la danse suivante que l'orchestre va suivre. Et si c'est juste l'orchestre, tu peux avoir le frimage, le violoniste qui fait une très haute note, très longue, dans des autres continuelles. Et qui annonce la suite, mais en pure intro.
Moi j'ai fait du jazz, le jazz c'est l'improvisation, mais c'est une improvisation vachement structurée. Hein. Alors c'est ça qui est bien voir. Moi j'en ai pas fait beaucoup.
On
Oui, on en fera après pour ceux qui veulent en connaître. On avait tellement de retard déjà. Jean-Maurice, il y avait une.
Oui, moi je voudrais revenir au registre qu'est-ce qu'on en fait concrètement, là, qui a été ouvert tout à l'heure, et m'adresser plus directement, particulièrement à Gaëtan et peut-être à Gauthier également, à travers la présentation des principes du vivant tout à l'heure, où on se rapproche là, je dirais, du cœur de ce cycle. Révolutionner le management en s'inspirant de la nature. Est-ce que vous avez des exemples d'entreprises, j'en ai quelques-uns, mais de façon très très brève, exemple d'entreprises où votre accompagnement consiste dans une optique biomimétique à construire, reconstruire la vie de bas en haut, par exemple? Est-ce que vous avez des exemples qui illustrent un petit peu comment cette organisation que vous avez montré, où les gens ont dit « Ah, ça, c'est notre organigramme, etc. » avec ses procédures, ses règles, etc., etc. Eh bien, je dirais, on peut y faire entrer, vous y faites entrer, par quelque chose que vous allez peut-être nous décrire, la méthode de la vision, voilà, est-ce que vous avez des exemples à nous donner de processus, de voyages que vous avez fait à des entreprises qui transforment, qui font qu'effectivement on a révolutionné un peu ou beaucoup le management grâce à cette lecture comparée, rapprochée avec la nature?
La première chose que j'ai envie de dire, c'est que on ne propose pas un accompagnement basé sur les principes vivants. Ah. C'est quelque chose qu'on n'annonce pas du tout.
D'accord.
Parce que ça peut fuir. Aucune chance qu'on obtienne quoi que ce soit si on annonce ça. Parce qu'il y a cette dualité dont tu parlais, Nicolas, qui est très présente. Et je me souviens justement à la présentation des gens environnement, on a fait plus ou moins la même présentation, mais il y a des gens qui sont terriblement à cheval sur ce dualisme ou qui le prennent très vite mal. Et la première question, c'était, mais enfin, on va se comporter comme des fourmis quand même maintenant. Mais ça n'avait rien à voir avec ce que j'avais dit dans la présentation. C'est juste simplement une projection d'esprit. Et donc, Ce qu'on essaye de faire avec les entreprises, c'est pour avoir de l'impact, c'est de mettre la durabilité au cœur des entreprises parmi tout ce processus. Et alors, on utilise les principes du vivant sans les nommer, en les faisant passer pour du bon sens.
Mmh. Par exemple.
Ben, par exemple, l'idée de il faut créer des endroits d'expérimentation sécurisés pour savoir où on va, donc en ayant fait sa vision, etc. Et si on a une idée, on y va, on fait une petite expérience. Au CERIA, par exemple, on travaille dans ce sens-là. On va rassembler des professeurs, on fait venir un super chef qui est très renommé et on les confronte à ça. Ils vivent une expérience. Parce que si on n'est que dans la planification et la vision, on reste dans le théorique. Les gens doivent vivre ça. Et donc voilà, ça c'est. Mais on ne dit pas que c'est un principe du vivant.
Non.
Mais on a clairement inscrit ça comme un pilier, comme une étape, si vous voulez, de notre mission, c'est d'utiliser ce principe.
Mais ça ne m'étonne pas. Je pense qu'effectivement, les choses ne passent pas par, dire c'est un principe du vivant, donc c'est bien, il faut le faire,
oui.
Mais davantage par l'ingénierie, les méthodes, les façons de faire qui vous inspirent, vous animent, etc. Avec lesquels vous accompagnez les processus de changement. C'est plus ça, quand je parle d'expérience, c'est pas où est-ce que vous dites que c'est des principes du genre, mais davantage, qu'est-ce que vous en faites. Quoi.
Alors, tout ce qui est collaboratif, etc., on s'appuie, c'est toujours un travail croisé. Donc, pour rappel, c'est quand même un travail qu'on mène maintenant et ça n'a qu'un an. Donc, on n'a pas fini les accompagnements, on n'a pas révolutionné les entreprises. Hein, si vous là, il faut aller chercher dans la littérature. Par exemple, tu citais Freedom Inc., des bouquins comme ça. Vous avez vraiment. Qui parle d'entreprises qui se sont libérées du joug d'un management de type commande et contrôle, et où chacun prend des initiatives. On a l'impression que personne ne gère, et en fait, tout va super bien. Parce que on a une certaine liberté, une certaine autonomie, etc. Et nous, on va s'inspirer beaucoup de ces théories, les croiser avec les principes du vivant. Et donc, on applique par exemple des méthodes de sociocratie. On utilise la sociocratie pour pallier, par exemple, à ce réflexe qu'on a toujours pour se faire remarquer ou faire réussir son ego, on va commencer par critiquer ce qui vient d'être dit.
C'est un rapport de compétition. Et quand on est dans un truc hiérarchique comme un Uncontrolled Control, il faut se faire remarquer par rapport aux voisins pour pouvoir être le prochain.
Ça peut paraître une anecdote comme ça, mais la réussite d'une mission, elle tient parfois à ce genre de choses, ce genre de conditions de travail qu'on met. Voilà.
Alors moi je compléterais quand même en disant, donc effectivement, comme Gaëtan dit, il y a d'un côté. Les entreprises qui sont dans Freedom Inc. qui en font déjà et qui ne l'ont pas fait avec une inspiration du vivant, certainement pas. Et à côté de ça, on constate que quand on amène les observations, justement des principes du vivant, on voit que ça commence à coller. Et c'est ça qui nous explique, et c'est ça qu'on commence à croiser. À côté de ça, il faut quand même mentionner une entreprise, mais ce n'est pas nous du tout, ça, qui a déjà fait ce genre de chemin. Une entreprise comme Interface, qui est souvent citée pour ça, donc Interface qui fait des tapis de bureau. Et qui a rassemblé le patron qui vient de décéder d'ailleurs à une espèce de moment d'épiphanie par rapport à l'environnement quand il a compris l'interdépendance radicale dans laquelle nous sommes tous, et où il a fait venir Janine Binus, Amaury Robbins, le gars de Cradle to Cradle, les gens de TNS, de Natural Self, etc. Et en mettant tous ces gens-là, il a fini, effectivement, ils se sont fait une sélection, tu avais un slide là-dessus d'ailleurs, mais je crois que tu l'as pas mis aujourd'hui, avec 5 principes du vivant qui se sont donnés, quand même explicitement, en tout cas en interne, peut-être pas en communication externe, mais en tout cas en interne, comme étant 5 principes qui leur donnaient un cap, une vision, comme Gaëtan en parlait.
Ça fait donc, ça, c'est une interface, qui dit
Interface.
Oui.
C'est une boîte quoi, ça
c'est américain, ça.
Ils sont implantés en Europe.
Ils ont vraiment révolutionné avec cette approche-là en 20 ans la fabrication du tapis, qui est une industrie un peu dégueulasse.
J'entendais la poussière dessus, oui.
Non, mais qui était loin de faire des efforts en durabilité. Et ils ont vraiment résolu énormément de points sensibles.
ils ont changé l'industrie ou ils ont, c'est juste eux qui se
sont ils
niche et ils ont, voilà, ils se différencient justement de l'industrie, ils vont attirer une certaine clientèle parce qu'ils sont différents. Ou est-ce qu'ils ont vraiment su imposer une certaine façon de travailler que les autres ont dû suivre?
Je connais mal cette industrie, je ne suis pas un spécialiste de l'industrie du tapis, mais comme ils sont numéro 1, donc c'est vraiment numéro 1 sur les tapis, donc c'est les tapis pour entreprise. Hein.
Ils n'étaient jamais numéro 1 avant de.
Non, c'est vraiment une.
Ils sont devenus numéro 1.
Et donc certainement qu'il y a eu des choses qui sont passées. Oui. Après, ils ont des brevets, ils ont posé des brevets. Pour éviter l'école avec les formaldéhydes, ils ont inventé quelque chose qui est basé sur le biomimétisme, mais disons, nul ne connaît le secret.
Là, c'était pas trop en phase avec les principes vivants de.
Ah, ben non, mais d'ailleurs, c'est des brevets. Non, mais d'ailleurs, ce qui est intéressant aussi, dans le cas d'une thèse, et ça pour moi, c'est un point très important, je dirais, des principes du vivant tels qu'on les invite, c'est le référentiel biosphère. C'est-à-dire, c'est comme on a dit, le. Être compatible avec la biosphère et que n'importe quelle entité peut se poser la question, se dire en quoi je ne le suis pas et qu'est-ce que je peux faire pour y arriver. Et par exemple, dans l'interface, ils se sont de nouveau vraiment donné des cibles et ils estiment qu'actuellement ils sont à 35%, si je me souviens bien, de ce qu'ils appellent leur voyage de durabilité. Et c'est aussi vachement intéressant au niveau communication parce que ça veut dire qu'ils disent qu'on est devenu vert. Ils disent qu'on a fait 35% du chemin pour devenir compatible avec la, ils disent pas avec la biosphère, mais compatible avec la planète, c'est un peu une expression de ce type-là. Donc ça c'est. Enfin, ça pour moi, ça aussi s'appuyer sur une réflexion vraiment.
Mais ils avaient ce schéma très intéressant où on avait fait la même chose avec Sodexo, on avait imité ça. Ils avaient vraiment pris leurs impacts principaux, bon, énergétiques, pollution, etc. Et ils avaient mis en lien schématiquement, visuellement, avec les éléments de la biosphère, avec le soleil, le sous-sol, etc. Et donc ça a une force aussi éducative à un moment donné qui est.
Mais pour ça, répondre, oui. Répondre à la question d'Alexis, une des premières entreprises dans le Benelux qui est cradle to cradle, c'est Desto, qui est aussi dans l'industrie du tapis. Je ne sais pas comment elle se positionne par rapport à Interface, mais elle est aussi en plein dedans. Ce qui tendrait à faire croire qu'il y a quand même un effet de l'illumination, en tout cas.
Ah oui, l'illumination, c'est
comment Desso, D-E-2-S-O, et le patron de Desso, qui est en hollandais, sera dans le séminaire de clôture de Philomène. Tout ça m'amène.
Je vais venir pour poser la question.
Oui, voilà. Gaëtan, tu as évoqué tout à l'heure l'émergence du common goal.
Oui.
Et en même temps, tu as parlé de l'exercice où on devait définir la vision. Je me demandais si c'était tout à fait la même chose. J'ai plutôt l'impression que dans la nature ou dans le vivant, ce common goal, il n'est pas explicité. Tu l'as dit, il y a une panarchie d'objectifs individuels, hein, ou en tout cas au niveau des espèces, ou que sais-je, mais que le common goal, il n'est pas vraiment formulé, hein, tel que je le comprends.
Non.
Donc
non,
là, quand tu dis, dans une entreprise, il faut définir la vision, est-ce que c'est la même chose que cette émergence?
Mais c'est là où l'analogie s'arrête et où on voit que le cerveau humain a eu des sauts quantiques par rapport à tout ce qu'on peut trouver dans la nature, enfin, peut-être dans la santé des dauphins, etc., qui est quand même une société qui sont assez admirables, une société de camaraderie, hein, qui fonctionne comme ça.
Là, pour répondre, tu fais la même chose dans une société, hein, tu fais une différence entre la vision d'aller quelque part et ce qui est partagé par les gens pour y arriver.
Oui.
Les valeurs partagées, c'est le common goal.
Ce qui est différent d'une vision, tu vois.
Mais non, mais ce qui est différent, c'est la vision. Ouais. Quelle est l'intention du leader qui veut arriver quelque part, du common goal, du groupe qui, par ses valeurs partagées, arrivera à atteindre le but que le gars s'arrête. Ouais.
Mais
et si le gars, dans sa vision, tient pas compte du common goal des gens, il n'y arrivera jamais.
Ah oui, c'est ça. C'est ça, ok.
S'il ne tient pas compte des valeurs partagées pour arriver que les gens ont, ben, ils n'y arriveront jamais.
Bah, ou alors on est plus dans une hiérarchie vraiment. Ça existe.
Mais il n'y a pas de. J'ai l'impression qu'il y a quand même une différence assez importante dans ce que nous disons là maintenant. C'est qu'il peut émerger un projet commun dans un cadre de nature, mais qui vient
de l'intérêt individuel, du besoin individuel, et d'où émerge un projet commun.
Oui.
Alors que quand on parle de la vision d'une entreprise, elle me paraît plus venir du leader, du management, et rencontrer des valeurs compatibles au niveau de l'ensemble de la population.
Oui, quand vous dites la vision d'un plus du leader, c'est une façon de faire, on n'est pas obligé de faire de cette façon. Ce que je veux dire, c'est que si à un moment donné, on veut co-construire une vision, il faut travailler le pendant de la vision, c'est-à-dire le commitment to choose, qui est cher à Peter Senge. Bon, moi, l'expression est un peu anglo-saxonne, comme ça. Nous, on l'a traduit plus un commitment to scientific reality, avec un S. C'est-à-dire qu'à un moment donné, vous avez une vision de la réalité où vous vivez aujourd'hui, vous avez une certaine façon, moi, sans doute une autre, votre voisin du autre. Si on va travailler ensemble, on aura intérêt à passer du temps, à enrichir, comme je disais tout à l'heure, où on en est, comment on voit la réalité. Parce qu'à ce moment-là, ça va beaucoup être plus facile pour discuter d'une vision où on va. Et si je pense, enfin, moi j'ai l'impression que c'est la difficulté chez l'être humain, c'est qu'on a des niveaux de conscience qui sont différents, qui sont assez multiples selon son parcours, etc. Et que, eh bien, on a intérêt à se dédier pour éviter les mauvaises surprises. Où on est, où on va, ça doit être partagé. Si on veut créer une organisation qui soit apprenante à un moment donné et qui soit adaptable à des changements brusques.
Et en ce sens créatif.
Et en ce sens créatif.
Mais si j'en reviens au point que j'essaie d'identifier, il y a quand même une différence importante entre un projet commun qui est la résultante de besoins vitaux ou essentiels des participants. Et un projet d'entreprise qui est pré-cadré. L'entreprise a défini qu'elle va faire des statuts et qu'elle ne va pas faire des espaces d'élection. Il y a déjà un certain cadre. Alors, qu'à l'intérieur de ce cadre, il se repartit en bas, là, je suis d'accord, mais il y a quand même une différence de qualité. Enfin, de qualité.
Là, vous confondez l'objet social et une vision.
Oui.
Moi, j'ai posé ça, c'est un objet social, c'est pas une vision.
Exact.
La vision, c'est une autre nature.
Voilà, mais c'est à l'intérieur de cet objet social.
Oui, mais c'est
exactement. Mais s'agit-il d'une ambition alors d'un leader, ou c'est une ambition collective construite?
Exact.
Je pense qu'il faut plus rechercher une ambition construite. Parce qu'une vision, c'est fondamentalement une ambition. C'est un positionnement.
Une intention commune. Moi, j'aime bien cette expression-là parce qu'on a vraiment cette intention d'aller. Et d'ailleurs, qui se modifie tout le temps, au fur et à mesure où on avance, elle se reformule, elle se précise, etc. Mais c'est une façon aussi, si vous voulez, quand quelqu'un arrive dans votre entreprise, de rejoindre un autre principe du vivant qui est make the most of everything. Si quelqu'un est là et que vous lui dites, bon, mon gars, ça c'est la vision, ça c'est ton job description, à la fin du mois tu vas toucher ça, bon, ça marche aussi, hein.
Ça marche
d'une certaine façon. Mais en termes de créativité, dans un environnement très changeant, ça va être plus compliqué de faire émerger la créativité.
Et la durabilité ?
Qu'est-ce que vient faire la durabilité en tout ça?
Vous dites que c'est un peu difficile de faire émerger la créativité dans ce cadre-là, mais et la durabilité?
Elle a besoin de créativité.
Dans le cadre de la vision vivante, la créativité elle joue sur deux choses. C'est la permanence. Parce que s'il n'y a pas de créativité, en physique, c'est un peu dynamique, le système se dégrade. Mais déjà pour se maintenir. Et après, pour faire survivre les émergences, il y a toujours les deux dimensions qui sont nécessaires. L'apport d'un type d'énergie extérieure pour faire le maintenir.
Après, la durabilité, moi j'ai vraiment l'impression que c'est quelque chose qui émerge à notre époque comme un besoin avec la prise du conscience, la finitude des ressources. On n'a jamais été 7 milliards sur Terre. Ça n'est jamais arrivé. On n'a jamais été 7 milliards sur Terre à réaliser la finitude des ressources. Et à se demander comment on va faire.
Didier, Antoine, Antoine, Didier,
ce que je voulais dire, c'est que on peut favoriser la créativité dans une entreprise par un système de sous-ouverture, etc. Mais ce qui n'est pas évident, c'est qu'une entreprise créatrice ne sera pas nécessairement bonne à l'exécution. Et vous avez une entreprise qui va être très orientée créativité, il va avoir 1000 idées à la minute. Mais ensuite, pour canaliser la créativité, en sortir la bonne idée, parce qu'elles ne sont pas toutes bonnes, et ensuite passer à un mode exécution qui demande quand même un management un peu différent à l'exécution qu'à l'ouverture. Donc, il faut des entreprises qui sont bonnes à la créativité, bonnes à l'exécution. Et un management donc un peu bipolaire.
Paul Bernard avait une sortie, c'était un modèle pour les entreprises. C'était la différence entre la value creation et la value captation. Et on se rend compte, à force d'études, que certaines entreprises, comme vous le disiez, étaient très bonnes à créer des choses, et puis d'autres à récupérer, imiter et capter toute la valeur de l'invention, en fait, laissant sur le carreau, peut-être. Mais bien sûr que la créativité, c'est qu'une une dimension.
Mais non, hein, mais souvent, je pense que je prends pas, moi, de mon vécu, je pense qu'il y avait plus d'idées que plus de bonnes exécutions. Je pense que l'entreprise en général pêche aussi beaucoup par mauvaise exécution d'une bonne idée. C'est là où ça loupe souvent. Quoi.
C'est le mécanisme des grandes entreprises pour les médicaments. Ils font mal les idées viennent de tout laboratoire et la production est centrée dans une entreprise.
Ouais.
Mais c'est l'entreprise qui fait les bénéfices.
Oui, mais la recherche a un coût, hein, c'est un centre de coût.
Mais ça veut dire que même, oui, c'est toujours un centre de coût, pas encore vu comme un centre de
coût. Non,
on va acheter, quoi, pour l'instant. Plutôt d'investir, réachetons un ou bien comment ça va être. On a compris
que c'est comme ça aussi. Oui, mais derrière cette idée-là, est-ce qu'il n'y a pas à nouveau un dualisme un peu je veux dire, problématique qui est on crée et puis on exécute? Alors que je pense que c'est aussi tout ce qui ressortait de la discussion avec Gaëtan tout à l'heure, c'était que l'innovation elle était aussi dans l'organisation elle-même, et donc d'un mélange probablement plus grand entre créativité et exécution, ou création et exécution.
Oui, mais il y a peut-être moyen de travailler l'exécution aussi, hein. Mais je vais demander l'exécution devant la management probablement plus hiérarchique. Que la créativité était demandée. Je suis provocateur de l'ambition.
Justement, dans les bouquins qu'on mentionnait, c'était justement des. Parce que quand vous avez dit, les entreprises pêchent en général plus par bonnes idées et moins par l'exécution, la créativité, elle se met aussi dans l'exécution. Oui. Ouais, ouais, bien mais, et on le voit très peu dans ces bouquins de. Pardon ? Oui.
Dans le management, voilà, c'est dans le management.
Non, c'est pas du management de processus. C'est quelqu'un qui a en fait, qui n'a pas de job description, mais il sait où il va, il sait où il est, et à un moment donné, il dit, moi, pour améliorer le système, je vais faire ça. C'est comme ça qu'il attend, et je vais le dire à un moment donné. Et ça peut être sur le sales floor, ça peut être dans un hangar, voilà, les actes de créativité, ils peuvent être partout. Partout. Du moment
Du moment qu'il améliore le système et qu'il dit. Dans ce cadre-là, j'allais demander, est-ce que donner des objectifs à quelqu'un fait partie d'un cadre contraignant ou laisse la place à la créativité? Parce que du management by objective, c'est vraiment la tarte à la crème. Pas la tarte à la crème. Bon, toutes les entreprises fonctionnent beaucoup par management by objective. Est-ce que c'est un bon processus par rapport à la créativité?
Là, peut-être je peux rebondir sur ce qu'on a vu avec Gates, hein, donc l'auteur de Freedom Inc. qui était venu ici. Et personnellement, j'ai commencé à l'appliquer dans mon management. Et c'est en fait de définir des objectifs clairs. Ouais. Et ça rejoint peut-être l'idée de common goal que tout le monde peut s'approprier. Mais pour le reste, alors emmerder les gens le moins possible. Pour justement leur laisser vraiment le plus libre cours à leur envie de faire, mais dans un cadre, alors effectivement, mais qui est vraiment très très large. Et je crois qu'il faut un cadre, il faut qu'on ait défini un minimum l'objet social, comme vous le disiez tout à l'heure, mais après ça, on peut être vraiment très très, très large. Et autant Gates le dit que Stemler aussi, le patron de Semco, ils ont des approches comme ça qui est à la fois OK. On a quelques objectifs ou principes très larges, mais pour le reste, c'est beaucoup, beaucoup de liberté et d'autonomie.
Il ne faut pas laisser les gens réfléchir. Ils ont intérêt à suivre des procédures et qu'ils ne fassent que ça. Sinon, c'est des mots sur le terrain tout le temps. Tu ne vas pas ouvrir un sectionneur si tu dis une fois comme tu veux.
Non,
c'est une autre raison. Dans une solution, vous avez intérêt à que les gens respectent des cadres réglementaires très chauds.
Oui, mais
si tu fais une marche pour l'informatique, il ne faut pas laisser les développeurs partir dans tous les sens. Sinon,
mais
problème.
À nouveau, je pense que.
Le discernement des lieux où on peut.
Exactement, voilà, c'est ça que je veux dire. Très bien. Et je suis sûr que le développeur peut avoir des idées, qu'il doit les appliquer, mais il doit les rentrer dans un cadre de développement et pas de tester. C'est ça, ne pas le faire.
D'accord.
Je veux dire, il y a. Mais. Je travaille dans un cadre réglementaire, mais il y a un cadre respecté.
Ça me fait penser à quelque chose. On a une discussion sur la créativité. Il ne faut pas tomber dans l'inverse. Je veux dire, on vient d'un certain modèle. La planification a ses atouts et à côté de la créativité. Donc,
on en revient à ce que monsieur disait, c'est qu'il y a bien des endroits où il faut de la créativité, il faut des idées. Et c'est capté dans un système qui est planifié, qui est optimalisé pour un système. Et le problème, le deuxième souci qu'on ne parle pas, c'est qu'en fait, les idées, c'est bien, mais il faut le capital financier pour arriver à ça. Et c'est ça le plus gros problème. La plupart des sociétés informatiques, des start-up qui sont en France, en Belgique, etc., qui ont des bonnes idées et démarrent des choses, sont, on pourrait se dire, toutes rachetées par des grandes sociétés à capital. Parce qu'elles sentent par elles-mêmes qu'elles ne savent pas se développer. Donc, il y a une dimension économique qui est bloquante. Quoi.
Oui, et l'open source. Tout est fait à
c'est dans la fumée de la société, c'est pas l'achat de trucs qui font les choses en open source. Ils ne savent pas se faire tout seul. Si on prend la plupart des startups, elles sont toujours rachetées par des grands groupes. Pour survivre.
Et aussi parce que c'est un. Face à ça, qui est un autre métier. Parce à partir d'un certain niveau de développement, les entrepreneurs de la start-up, à ma modeste expérience, arrivent à une étape où ils ne connaissent pas. C'est autre chose. Ouais. C'est un autre métier. Et c'est le moment aussi où ils passent la main. Ouais.
Mais le rachat se fait de ces petites sociétés créatives, aussi par les grands groupes, pour les étouffer, et en gros, pour, d'une certaine manière, tuer leur créativité, ou en tout cas acheter une créativité qui a donné quelque chose, qu'on s'approprie, mais qui est mort, un peu dans le sens où Nicolas l'a dit tout à l'heure.
On peut le voir de façon positive aussi.
On peut le voir aussi de
façon positive. C'est un rôle.
Pas toujours.
Au niveau de la créativité, il y a plusieurs choses à voir. J'ai travaillé avec un consultant, il était la créatif, pour dire des choses pas mal. Et c'était. Il y avait un truc intéressant, c'est que finalement, dans la créativité, elle peut être ternaire, binaire et après une ère. Et alors, la créativité ternaire, c'est la créativité des idées qui vont dans tous les sens. On est autour ici, on a tous des idées un peu partout, quand on les croise entre nous, ça multiplie encore les idées dans tous les sens. Donc, on peut le réduire à un élément simple, une idée, la relation, ça fait trois. Bon, et puis après, ça se multiplie un peu partout en fonction des idées. Mais en fait, on va décrire ici ce qu'on appelle le champ des possibles. Donc, c'est la créativité dans le domaine du champ des possibles. Après, il faut passer la créativité au plan de la faisabilité, quoi. Et concrète, avec d'autres contraintes qui vont intervenir. À partir de ce moment-là, on va commencer à opérer des négations. Dans le premier temps, c'était un temps de position et gérer la créativité affirmative, si vous voulez, se multiplier. Et après, il va y avoir une créativité négative, au sens que je vais mettre des noms, des peut pas. Mais ça aussi, c'est une créativité. On passe du champ du possible au champ de l'existence, en fait, des choses existantes, du réel. Puis alors, à partir de ce moment-là, puis on va arriver à des décisions de type binaire. On passe du ternaire au binaire. Au binaire, ça veut dire, ça sera oui, ça sera non. Et puis, par ce biais, qui est également un biais créatif, parce qu'on fait des choix. Donc, on va arriver donc, à une décision, puis alors là, c'est le rôle de passer à la mise en œuvre, à à la réalisation qui nous passe à notre niveau. Là, on va intégrer tous les paramètres qu'il faut pour pouvoir mettre ça en œuvre. Et il me semble que c'est important de voir cette dimension-là. C'est pour ça que voir la créativité seulement en termes d'émergence, je crois que c'est insuffisant. Il faut la voir aussi en termes d'assimilation des contraintes et des négations. Voilà. Donc, une manière un petit peu que je propose, c'est effectivement un petit peu la conclusion méthodologique que je voulais proposer par rapport à la question que j'ai faite dans cette vidéo.
On a déjà répondu par rapport à la question. Je souhaite être une petite curiosité dans votre expérience par rapport à ces nouvelles manières de voir le travail en société, donc si j'ai bien compris, les nouvelles formes de leadership et de membership en même temps. Il me semble que c'est un peu plus facile de créer une société que de changer de culture dans une société qui existe des choses apparemment.
Ah oui, de changer la culture de la société,
surtout si elle est de plus grande taille.
Ah oui, vous avez raison. Oui. Oui, c'est pour ça qu'on ne peut pas affirmer aujourd'hui qu'on a eu une mission qui a transformé une société. C'est les missions stratégiques qu'on a. D'abord, elles sont toujours. Le sujet, c'est de mettre la durabilité. Et donc, en face, on se trouve toujours avec des gens qui attendent des réponses un peu techniques. Je suis toujours un peu surpris quand on commence à travailler avec la sociocratie, etc. Et puis, vous avez raison. Hein, ça met, et de toute façon, il faut du leadership pour ça. Mais il faut convaincre que le leadership reste, il change de temps, mais il est toujours là.
J'ai même cette manière de travailler ensemble où il n'y a pas vraiment de structure pyramidale ou hiérarchisée. Ça reste que malgré tout, les gens ont une espèce de sens de l'engagement qui fait que ça devient une vision partagée quand on peut atteindre certains résultats.
En général, les méthodes comme la sociocratie, par exemple, font prendre conscience aux gens par l'expérimentation qu'il y a une autre manière de fonctionner. Et qui est pour certaines personnes très très enrichissante. Par exemple, imaginez une personne dans une entreprise qui est plutôt timide et qui veut l'impression un peu de suivre, etc. Là, une méthode comme la sociocratie, on va vraiment rassurer la personne et on va lui proposer un temps de parole et d'ajouter son point de vue à ceux qui sont déjà là sur la table. Et ça, en général, il y a beaucoup de gens qui aiment bien ça, enfin, c'est standardisé et qui ont envie de continuer dans ce style-là.
Et d'y trouver une sécurité, d'y trouver au fur et à mesure une sécurité et de se rendre compte que quelque chose qu'on n'osait pas faire parce qu'on se sentait exposé effectivement à des retours de flamme de la hiérarchie. Une fois qu'on passe pour autre chose, on peut apprendre et rentrer là-dedans. Mais c'est vrai que dans les grandes sociétés, enfin moi je pense à un ami qui travaille beaucoup en intelligence collective, s'appelle Jean-François Nouvel, qui peut être intéressant, mais aussi un énorme dans le panel, et qui dit, lui, de plus en plus maintenant, quand il va dans des grandes entreprises pour proposer justement des modèles de fonctionnement beaucoup plus clairs en termes de hiérarchie, ce qu'il propose, c'est de créer une cellule, ce qu'il appelle vraiment une cellule imaginaire, qui fonctionnera encore sur les ressources d'une société pyramidale classique, mais à qui on va donner de la liberté pendant, je ne sais pas moi, 4-5 ans pour résoudre tel problème ou pour inventer telle chose, avec son propre fonctionnement. Et à ce moment-là, on a une transition qui peut être assurée entre les deux systèmes, où on n'est pas obligé de balayer la structure hiérarchique pour tester d'autres choses, et où en même temps la structure hiérarchique va peut-être construire quelque chose qui finira par la remplacer, mais les gens peuvent se transférer l'un à l'autre, je veux dire, on n'est pas obligé de... Et c'est un modèle que je trouve intéressant, mais qui commence, qui me fait commencer. Sinon, c'est effectivement plus facile de partir.
Ce modèle colle au vivant, à certains principes du vivant.
Mais oui, dans le sens où, dans l'évolution, c'est ce qu'on voit très souvent, c'est qu'on bricole avec l'étape d'avant. Hein. Ouais. Par exemple, je donne un exemple très concret. On sait par exemple que les os de l'oreille interne chez les mammifères, c'est des os de la mâchoire de poisson récupérés qui ont changé de fonction, mais où donc on n'a pas inventé, enfin le vivant n'a pas inventé de nouveaux os pour faire les os de l'oreille interne. Il les a récupérés de l'ancien. C'est très fréquent dans l'évolution de voir qu'on récupère un truc, on bricole un petit peu et on lui donne une nouvelle fonction et ça va très bien.
Ça crée une confiance dans la capacité à changer, à reprogrammer son ADN.
Emmanuel, vous pouvez expliquer ce que c'est que la sociocratie?
Ben, la sociocratie, donc moi j'ai été formé pendant quelques jours, donc je ne suis pas un peu le spécialiste, mais j'ai assez de connaissances pour gérer un groupe en sociocratie, et donc c'est l'idée d'une démocratie participative. C'est-à-dire que c'est une technique, ce sont des techniques de gestion de groupe, on va dire,
prise de décision.
Pour prendre des décisions et pour être sûr que tout le monde a vraiment participé à la décision.
On a eu un séminaire de sociocratie ici pour Philo et Management également, et je veux dire qu'il y a, je me rends compte maintenant qu'il y a de plus en plus de mouvements plus ou moins similaires. On parle d'holacratie également.
Adocratie.
Mais fondamentalement, tout ce que ces techniques sont des techniques de prise de décision dans lesquelles on veille à ce que tout le monde puisse participer. Et là, en termes philosophiques, ça rejoint, je pense, Habermas en plein, donc qui a vraiment pensé des procédures de prise de décision et qui, alors c'est intéressant, en termes éthiques, va définir l'éthique ou ce qui est éthique en fonction de la manière dont la décision a été prise et non pas en fonction de son intention, de l'impact, etc., mais plutôt vraiment est-ce que tout le monde a participé de manière libre, non contrainte, etc., à la décision. Et quel que soit le résultat de cette décision, elle sera éthique simplement parce que ces procédures ont été respectées.
Je rappelle, bon, avec Piquet, sociocratie, vous avez mis 10 personnes ensemble. Bon, elles ne parlent pas, hein, mais elles ont chacune des idées. On va prendre une décision à la majorité. La majorité va se dégager. Et puis, ça, ce n'est pas la sociocratie. Parce qu'il se trouve que on va commencer à croiser les débats, les discussions ensemble, etc. Et puis, brusquement, ce qui va émerger comme idée qui va produire quelque chose de nouveau, c'est peut-être ce qu'une seule personne avait pensé, mais qui, brusquement, grâce à ce jeu justement de communication, d'échange, va finir par recouvrir l'ensemble et à recevoir l'adhésion de tout le monde, de prendre la décision. Donc, ce n'est pas forcément une décision de la majorité, même que quoi, ça n'est pas du tout. C'est ça qui est intéressant.
C'est
sûr que dans la décision, tout le monde s'y
retrouve. Tout le monde s'y retrouve.
Voilà. Pour avoir une adhésion à la société.
Et au départ, donc dans les conditions initiales, ce n'est pas forcé que ce soit la majorité.
Exactement.
C'est ça qui est très intéressant.
Et que tout le monde s'y retrouve ne veut pas dire que tout le monde a gardé sa position de départ. Que du contraire, c'est qu'il y a eu des évolutions.
Il y a des processus.
Il n'y a pas d'objection.
Il n'y a plus d'objection.
Il
n'y a plus d'objection raisonnable, effectivement.
Ça
doit prendre du temps.
Ça prend du temps. Ça prend du temps.
Ça prend du temps, donc il y a un côté durabilité qui intervient. On introduit le temps là-dedans, donc
ça ne va marcher que dans une petite échelle.
Oui, par contre, ça crée de l'identité de groupe aussi. Ça crée la membrane. Hein. C'est l'expression qu'on emploie toujours avec Marine. C'est que ça permet de créer la membrane parce qu'il y a une adhésion autour. C'est comme si des cellules différentes mettaient ensemble d'accord pour former un organe. Comme je vous en ferai une comparaison comme ça. Et encore une fois, ce n'est pas immédiat, hein. C'est quelque chose qui s'apprend. Il faut, je parlais de la sécurité tout à l'heure, de l'importance du sentiment de sécurité. Et donc, c'est quelque chose qui va.
Mais ça prend du temps, tout est relatif. Ça prend du temps au moment même, mais après pour l'exécution. Comme les gens adhèrent vraiment à la décision. C'est là qu'on retrouve plus d'efficacité et on peut gagner le temps perdu. Donc il faut quand même. De nouveau, pas voir les choses comme ça. Enfin,
je pense aussi que la qualité des décisions est là parce qu'on fait plus appel à l'intelligence collective, on fait ressortir ce que chacun sait à un sujet et finalement on va prendre en compte beaucoup plus de paramètres qu'on le ferait si jamais c'est une décision qu'on n'a pas le temps de discuter et que voilà, c'est un leader qui va décider. Et donc on diminue le risque de prendre la mauvaise décision, ce qui fait souvent une perte de beaucoup de temps quand on a fait le mauvais choix.
Ça ne peut pas marcher au niveau d'un pays, hein. Parce qu'il y a un perdant et un gagnant dans les élections. Alors, le parti pour lequel vous avez voté ne va peut-être pas passer, ce n'est pas pour ça que vous avez changé de parti. Vous adhérez aux nouvelles idées. Ça ne peut pas marcher dans une démocratie.
Ça, c'est peut-être un côté. Tu peux peut-être éclairer cela. Parce que la question de taille dans les groupes pour qu'ils fonctionnent, je pense qu'au niveau biologique, il y a sûrement des enseignements à en tirer.
Oui, et puis je pense aussi justement, c'est pas tout ce que Jean-François Nouvel travaille là-dessus, c'est qu'effectivement, il parle d'intelligence collective primaire, je crois. Donc, donc c'est très important dans cette décision et en profondeur de la sociocratie, c'est que tout le monde cause avec tout le monde et tout le monde voit tout le monde. Une fois qu'on passe à des groupes qui sont plus grands que ça, c'est là qu'en tout cas dans les sociétés humaines, on a une hiérarchie qui est en place. Dans les sociétés dans l'humaine, on va dire, là on peut arriver plus à des intelligences dites en essaim, hein, en essaim, où en fait on, c'est quand même des prises de décision, mais là aussi on est en train de découvrir des choses, hein, ce dernier temps, mais où c'est des décisions collectives, donc au départ où en fait un groupe va se comporter comme le vol des tourneaux tout à l'heure, simplement en regardant les cinq voisins. Ceci dit, on a encore du mal à comprendre pourquoi ça vole par là et pas pour les...
Oui.
Pourquoi ça vole pas par là. Et par ailleurs, et là je ne réponds pas à la question, mais je parle juste de deux choses qui sont en développement, il y a un bouquin qui est sorti il y a 2-3 ans sur la prise de décision chez les abeilles, basée sur une étude très fine de comment quand une ruche se divise en deux colonies, il y a toute la question du choix du site où va aller s'installer l'autre, l'essaim. Hein, l'essaim justement. En fait, ils se sont rendus compte qu'ils envoient des abeilles dites pionnières, enfin, qui cherchent et qui visitent toutes les cavités dans tous les sens. Et puis, il y a vraiment un système de recrutement qui fait qu'au fur et à mesure, les abeilles qui ont repéré les bonnes cavités vont entraîner d'autres, qui vont. Et c'est une décision vraiment collective. C'est vraiment présenté maintenant. C'est quasiment. C'est pas de la démocratie parce que c'est pas du vote 50-50, mais c'est quasiment ça. Et ça a l'air très efficace parce que généralement, l'histoire se termine bien. Et à un moment donné, il y a tout le groupe qui va suivre les 250 abeilles qui ont fait le recrutement de toute la troupe. Donc là, il y a des choses à aller voir.
Oui, une question relativement à ça, en repensant au champ des tourneaux, enfin au groupe des tourneaux tout à l'heure, là, donc l'intelligence collective en essaim. On vous a laissé tout à l'heure, Nicolas, sur la noosphère de Pierre de Chardin. Par rapport à cette idée de, on ne sait pas très bien comment la direction se détermine, il y a un champ théorique qui est la théorie des champs morphiques, de Robert Sheldrake, qui se rapproche de la nosphère de l'unification de l'activité de la pensée intellectuelle et spirituelle de Teilhard de Chardin. Comment poser cette question là, parce que j'ai envie de la poser à Nicolas en premier lieu, parce que c'est là où vous avez laissé tout à l'heure, vous alliez dire quelque chose qui pouvait aller dans cette direction là. C'est, est-ce que vous avez le sentiment aujourd'hui qu'on va vers, qu'on est plus dans ce potentiel de ce que Nouvel appelle l'intelligence collective holomidale, c'est-à-dire une espèce de pensée collective dans laquelle, je dirais, il y a une accélération qui se fait naturellement de la capacité des humains, quand ils dialoguent, à produire cette intention commune. Est-ce que c'est pas assez clair ma question là?
Est-ce que ça converge pas?
Oui, c'est ça. Enfin, quand on dit que ça demande du temps, etc., etc., moi, je ne sais pas, j'ai un sentiment qui était de l'ordre d'une intuition qu'il y a quelque chose qu'on est en train de vivre aujourd'hui, qui est là, quoi, qui est dans un accès assez facile, avec la multiplication de ce que vous évoquiez tout à l'heure, la docratie, l'holacratie, la sociocratie, etc. On sent qu'il y a quelque chose comme ça qui est en train de monter, de s'intensifier, qui va dans une certaine direction. Qui nous rend plus aptes, me semble-t-il, à produire, à coproduire cette possibilité d'intention commune, de direction commune, de vision partagée, etc. Est-ce que vous percevez ça? Est-ce que vos recherches, vos interrogations, etc., vous amènent aussi à cette hypothèse?
Bon, alors, je vais essayer de répondre sur deux choses. J'en ai parlé un peu avec Laurent tout à l'heure. Les futuristes souvent se plantent. Si on prend les visions de la planète informatique des années 70, Fahrenheit combien, comme ça, c'était vraiment la vision du grand frère, du Big Brother informatique, elle est tout contrôlée, etc. Et puis on s'aperçoit que Internet. Des ordinateurs, des autos et tout ça, bien au contraire, c'est d'une part, on survit tous, ce qui est une espèce de tissu qui est en train de se faire, donc c'est la notion de complexité qui est à tout ça, parce que la complexité, c'est être tissé ensemble, se tisse, et en même temps, à l'intérieur de la complexité, les singularités
se construisent en même temps. C'est vrai qu'on prend chez Théâtre, Théâtre dit l'union différencie. Le propre de l'union, c'est de, une réunion de type organique, c'est de différencier les localités et les éventuellement. Donc ça, c'est une première chose que je veux dire. Donc c'est pour ça que, alors je disais à Ascus chez Whitehead que je trouve ça, si on analyse l'effet à un moment et les potentialités contenues dans ces faits, eh ben, on ne va pas vraiment produire du nouveau. C'est-à-dire qu'il y a aussi des potentialités qui sont dans le présent grâce justement aux autonomies locales qui se développent. S'il n'y a pas d'autonomie locale, il n'y a pas vraiment de créativité, on ne va faire que prolonger des lignes potentielles. Donc ça veut dire qu'il y a toujours de l'imprévisible partout. Alors le problème, c'est d'arriver à tenir ensemble le fait qu'on voit des phénomènes de tissage qui se font, de tissage de complexification et peut-être de convergence, et d'un autre côté, une différenciation de plus en plus multiple. Alors je donnais l'exemple de l'Internet, moi je trouve ça extraordinaire, je vois tout ce qui se passe, et puis on voit tout le temps dans le développement informatique des choses imprévues qui se passent. Alors, moi je vois... chez des éthiciens par exemple, l'image de Facebook et de machin, c'est une catastrophe, les réseaux sociaux, etc. Et puis on voit, quand on voit les développements des indignés à travers la planète, ou des révolutions qui, avec des ambiguïtés bien sûr, qui se passent dans certains pays du monde, etc., et que c'est passé par souvent ces fameux réseaux sociaux pour nous critiquer, ça me fait un peu rigoler, quoi. Ça veut dire qu'on a quand même des surprises. Alors il y a un autre aspect, c'est l'aspect. Peut-être politique. Alors, une autre dimension, est-ce qu'on va arriver à un gouvernement mondial, unifié, etc. Moi, j'en sais rien. Si on veut une vision mondiale avec un gouvernement qui dirige le monde, je pense qu'on va se planter. Parce que l'Union doit justement différencier. Donc, il faut justement que le tissu se passe à travers des pôles qui sont vraiment représentatifs des localités géographiques, historiques, culturelles, je ne sais pas quoi, et puis qui, effectivement, je parle peut-être dans un pays qui s'appelle la Belgique, vous avez que pas de problèmes. Mais c'est vrai que ça pose une question, parce que c'est très curieux, parce que je parlais de ça avec mes collègues ces derniers temps, on a pas vu de politique. La France a beaucoup de défauts, je suis d'accord, je vous autorise à dire. Il y a une chose très bizarre, c'est que. Si en France la Lorraine va mal, ou si en France le Nord va mal, la région Rhône-Alpes qui va très bien, ou la région bordelaise qui va très bien, soutient par ces mécanismes de centralisation jacobine, etc., va soutenir si bien que personne n'est laissé pour compte, enfin, théoriquement, disons. Après, il y a quand même des injustices qui se développent, mais globalement, ça a fonctionné. C'est pas parce qu'une région est pauvre que ça explose. Ben, qu'est-ce qui a fait ça? C'est qu'il y a un côté durabilité qui intervient. C'est que ça date de Colbert, ça date de bien longtemps, une espèce de structuration unifiée en France. Bon, vous prenez l'Italie, l'Italie du Nord rêve de se débarrasser de l'Italie du Sud. J'ai revu le film de, comment il s'appelle, Le Guépard, de Visconti, il n'y a pas longtemps, et Christophe, je crois que ça ce matin, j'étais impressionné par une réplique. Bon, ça va vous faire rire, mais donc ça, en même temps, on n'est pas si ridicule que ça. Il y a l'orchestre qui joue justement le guépard, cette espèce d'aristocrate sicilien qui a aidé tout le monde à participer avec sympathie à l'unité italienne. Et puis on lui demande, il y a quelqu'un qui vient de Rome, puis Rome c'est au nord par rapport à la Sicile, qui vient à Rome et qui dit, mais vous ne voulez pas devenir sénateur, ce serait bien, quelqu'un comme vous, etc. Et puis à ce moment-là, il répond, vous savez, est-ce que Rome, vous avez compris que chez nous, la sieste, ça fait partie de la culture. L'air de dire que, et c'est vous les gens du Nord, les Milanais, les gens de l'Italie du Nord qui sont des bosseurs, etc. Nous, on est en région Rhône-Alpes, on est à côté de l'Italie du Nord, hein, c'est des bosseurs, les gens de Turin, de Milan, tout ça. Mais c'est vrai qu'on pourrait voir les Siciliens comme des feignants, des gens qui foutent rien. N'empêche que les gens du Nord sont ravis de prendre leurs vacances en Sicile ou en Italie. Mais on veut débarrasser de ce qui nous dérange. Il n'y a pas d'unité véritablement réalisée puisqu'on veut s'en débarrasser. La Tchécoslovaquie s'est débarrassée de la Slovaquie. En Yougoslavie, quand elle a éclaté, la Slovénie, qui était la plus riche, elle était la première à sortir. En Espagne, la Catalogne voudrait bien se débarrasser un peu du reste. Enfin bref, un peu partout en Europe, des phénomènes où finalement les plus riches voudraient débarrasser les plus pauvres, alors qu'ils ont tous besoin des autres d'une manière ou d'une autre, je ne sais pas sur quel angle, sur le plan politique. Et puis alors, au niveau européen, maintenant, c'est la Grèce qui polarise toute la, le, toute la voilà, toute pelée, ce galeux. Voilà. Bon, et oui, n'empêche que les Allemands et les Français, tout le monde est très content d'aller prendre des vacances dans les îles grecques ou d'aller faire du tourisme, faire des trucs comme ça. Bon, l'Europe n'a pas d'unité organique. Alors, je donnais l'exemple de la France avec son jacobinisme. Moi, je passe mon temps à critiquer le jacobinisme français. Puis, souvent, je me dis, mais il y a des fois où ça ne fonctionne pas si mal que ça. Et justement, parce que ça tourne depuis un certain temps. C'est vrai, je te dis, la Lorraine, quand elle s'est effondrée économiquement, elle est restée dans la France et elle est restée, elle a été soutenue par un système de redistribution, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça dans une question de monétisme. Intéressant à voir. Alors, est-ce que l'Europe va le faire? On espère qu'un jour il y aura quand même peut-être des phénomènes de redistribution qui n'empêcheront pas chaque pays d'avoir son identité, sa singularité. Alors après, à l'échelle mondiale, ça c'est encore autre chose, mais c'est vrai qu'il y a quand même des phénomènes de convergence. Et puis il n'y a pas longtemps, on a un conférencier qui est venu à Grenoble, qui nous a dit, mais est-ce que vous vous rendez compte que le monde entier contemple? Alors c'est quelqu'un qui a travaillé au niveau mondial, est-ce que vous rendez compte que le monde entier a les yeux tournés vers l'Europe actuellement? Parce que c'est la première fois dans l'histoire que des nations, qu'elles soient constituées bien ou constituées en devenir, vont essayer de travailler tous ensemble pour faire une unité différenciante. Ça ne s'est jamais déroulé dans l'histoire. Je suis désolé, les États-Unis ne sont pas fondés là-dessus. Les non, pas du tout. Non, c'est la première fois dans l'histoire que ça se passe. C'est peut-être un petit symptôme de quelque chose qui ne peut pas.
De très créatif.
On va rester là. Et, si vous me permettez, je voudrais répondre un peu à ce qu'a dit Jean-Maurice sur base de ce que nous a dit Patrick Vivret. Je ne sais pas si vous connaissez. Patrick Vivret est venu à Philosophie et Management il y a 2 ans. Il a évoqué, en fait, je pense qu'il a donné un bout de réponse à ce que tu dis et qui fait écho à ce que Gaëtan a dit au tout début. C'est-à-dire que la créativité, elle naissait du frottement par rapport aux limites et aux frontières. Mmh. Et en gros, je trouve que c'est un grand message d'espoir, donc c'est peut-être on peut se quitter là-dessus. Il dit, en gros, l'homme, fondamentalement, c'est un petit être chétif qui courait moins que les prédateurs, les grands prédateurs au départ, imaginons une grosse bestiole qu'il y avait au tout début. Et donc, pour pouvoir survivre, il a dû faire un saut qualitatif dans son cerveau, commencer à penser de manière différente. Et bon, on a tellement bien réussi que maintenant, on est notre propre menace. Et il dit, on en est tellement près de cette menace d'extinction collective qu'on va devoir faire un nouveau saut qualitatif dans notre tête. Et je pense que c'est ce que j'ai compris dans ta question. Et lui disait, bon, ben voilà, le saut qualitatif que nous avons fait il y a je ne sais pas combien de milliers ou de centaines de milliers d'années, c'était plutôt un apprentissage de la raison plus fort. Maintenant, pour lui, c'est plus d'un niveau entre guillemets spirituel, mais pas nécessairement évidemment religieux.
Et ce qui est intéressant, c'est effectivement de voir comme une nécessité.
Comme une nécessité parce qu'on a touché une limite.
Exactement.
C'est intéressant. Voilà. Sur ce, je vous remercie tous et aussi de votre patience. On a dépassé un peu le temps. Juste quelques petites communications très techniques. Il y a Alexis qui doit repartir. Tu as trouvé. Nicolas, toi, tu dois
lâcher. Moi, je vais à Scarbet. Il y a des gens qui vont se
dire. Il y a quelqu'un qui va dans Scarbet.
Oui, toujours le même.
Toujours le même. C'est... Ok, bah alors, on vous met ensemble.
Vous allez à Les Uzèques, en fait. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui va vers Oise ou vers Brabant.
Je vais
vers
Brabant.
Alors, on peut comme ça. Parfait. Tout le monde. Il y a encore d'autres covoiturages organisés.
Je vais du côté de Nice. Tu as une voiture avec toi?
J'ai un taxi qui vient.
T'as un taxi qui vient?
Parfait.
Et je peux prendre le taxi avec toi et puis ils m'emmèneront un peu plus loin à la gare de
Saint-Denis. Tout le monde est heureux là. C'était la collaboration. Voilà. Merci beaucoup. Et dans un mois alors. Et en tout cas, entre-temps, bonne année.
Bonne année.
À très bientôt. Merci.